Et le journal d'Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Et à la une, le paradoxe ukrainien face au risque d'une invasion russe. Moscou laisse planer la menace, Washington frôle la panique. Mais en Ukraine, les premiers concernés ne sont vraiment pas les plus stressés. Nous serons dans le nord du pays où cette crise semble bien lointaine. Des manifs et des grèves aujourd'hui pour des euros en plus sur la fiche de paie. Le pouvoir d'achat menacé par la hausse des prix. Alors vous l'entendrez, les Français sont de plus en plus nombreux à revendre plutôt qu'à donner les affaires dont ils veulent se séparer. Au sommaire aussi, le procès du 13 novembre et des témoins aux abonnés absents et les scientifiques du monde entier à la poursuite du nuage de cendres provoqué il y a 12 jours par l'éruption volcanique au Tonga.
Et au micro de Léa Salamé à 7h50, c'est aujourd'hui l'actrice Fanny Ardant et l'acteur Melville Poupeau pour le film Les Jeunes Amants de Karine Tardieu.
France Inter.
8 heures de négociations à l'Elysée, Alexis, entre France, Allemagne, Ukraine et Russie.
Et à la sortie hier soir, un léger regain d'optimisme côté français. Les Russes ont envoyé un bon signal selon Paris. Emmanuel Macron doit avoir Vladimir Poutine au téléphone demain. La France tente de jouer les médiateurs dans cette crise ukrainienne entre les manœuvres militaires de Moscou et le ton alarmiste de Washington. L'administration américaine n'en finit pas d'avertir. La Russie, dit-elle, pourrait faire usage de la force d'ici mi-février. Pourtant, sur le terrain, à la frontière Ukraine-Russie, c'est pour l'instant le calme plat, comme si on se sentait à peine concerné. Stéphane Chouan, sur place pour Inter.
La zone frontalière dans laquelle se rencontrent l'Ukraine, la Russie et la Biélorussie est un des secteurs stratégiques les plus surveillés en raison de nombreuses informations sur l'acheminement d'équipements militaires et de troupes russes à la frontière nord de l'Ukraine sur les territoires russes et biélorusses. Mais pour Sergei Chomenko, garde frontière au point de passage de Senkivka, à 200 km au nord de Kiev, il n'y a aucune raison de s'alarmer.
Là, nous nous trouvons sur la frontière entre l'Ukraine et la Fédération de Russie. À gauche, c'est la Russie. À droite, c'est notre territoire ukrainien. Et tout est calme. Là, vous voyez, il y a une fortification qui a été érigée en 2014-2015 pour empêcher toute incursion sur le territoire ukrainien. Ici, on ne remarque rien, tout est comme d'habitude. Des exercices militaires doivent se tenir sur les territoires russes et biélorusses. On est au courant de tout ça et on continue à surveiller la situation.
Aux abords de la frontière, la situation semble des plus calmes. Les camions et véhicules personnels continuent de circuler, peut-être un peu moins nombreux que d'habitude en raison de la pandémie de coronavirus. Aux confins de l'Ukraine et de la Russie, la crise semble très lointaine, comme si elle se jouait avant tout dans les chancelleries diplomatiques. Stéphane Siouan à Kiev pour France Inter.
Et justement, après la rencontre d'hier à Paris, une nouvelle réunion en format Normandie, donc à 4 entre France, Allemagne, Ukraine et Russie, est d'ores et déjà prévue dans 15 jours à Berlin. Plus de masques obligatoires en intérieur, ni de télétravail imposé. Fini aussi le pass sanitaire en boîte de nuit. L'Angleterre a levé cette nuit la plupart des dernières restrictions en vigueur contre le Covid. Vent de liberté aussi au Danemark. Copenhague annonce la fin des ultimes contraintes la semaine prochaine, malgré des contaminations toujours en hausse. En France, face à cette nouvelle vague de Covid, ils disent être les grands oubliés des aides publiques. Le gouvernement va ressortir le carnet de chèques pour les travailleurs indépendants. Le ministre des PME promet la réduction des cotisations sociales, mais aussi une aide financière exceptionnelle pour ceux qui travaillent dans l'hôtellerie-restauration, les boîtes de nuit ou encore les agences de voyage.
Il est 7h33. Eux, Alexis, ce sont des hausses de salaire qu'ils réclament.
CGTFO, FSU et Solidaire appellent à une journée d'action dans tous les secteurs aujourd'hui. Aujourd'hui, pour réclamer des augmentations face à l'inflation, 170 manifestations sont prévues. Les enseignants aussi vont se joindre au cortège, toujours remonté contre la gestion de la crise sanitaire à l'école. Le SNUIPP annonce 20% de grévistes en primaire. Et dans certaines villes, les perturbations seront plus fortes qu'ailleurs, comme à Marseille, Olivier Martoc.
33 crèches municipales fermées sur 58, 124 écoles sur 437. Pour de nombreux parents, la journée s'annonce compliquée, d'autant que partout il n'y aura pas de cantine. Carole apprécie toutefois le geste des grévistes dans celle où sont scolarisés ses deux enfants.
Sur le préavis de grève, c'est écrit pique-nique possible. Donc j'imagine qu'il y a quand même du personnel qui doit être là pour encadrer. Moi, les miens, c'est sandwich au jambon, chips, voilà quoi.
Des perturbations sont aussi annoncées dans les transports en commun. La double peine pour cette étudiante en droit qui ne savait pas hier soir si ses cours étaient maintenus.
Sur le site de la faculté, on a les informations sur les cours qu'on a et les matières qu'on a par journée, mais on n'a aucune information sur la présence des professeurs les jours de grève. Sans bus, ça va être un peu compliqué de se rendre à la fac, donc c'est-à-dire qu'à pied, j'en ai pour une bonne heure. Et c'est sûr que se déplacer pour qu'au final le professeur soit absent, c'est pas super.
Deux défilés en fin de matinée à Marseille, FO partira de la gare Saint-Charles, CGT, Sud, FSU, Solidaire, depuis le Vieux-Port. Sur les deux parcours, l'état d'immondice rappellera aux manifestants la lutte des éboueurs qui s'éternise. Marseille, Olivier Martoc, France Inter.
Une grève donc pour les salaires et le pouvoir d'achat menacé par la hausse des prix. Dans ce contexte inflationniste, pour arrondir les fins de mois, nous sommes de plus en plus nombreux à revendre des vêtements qu'on ne met plus, des objets dont on ne se sert plus. C'est ce que constate une enquête européenne de l'observatoire CTLM sur l'économie circulaire, enquête que France Inter vous dévoile ce matin en exclusivité. En moyenne, Agnès Soubiran, les Français gagnent 67 euros par mois en vidant leur placard.
Vendeurs, acheteurs, sites internet, boutiques, tous sont unanimes. On est passé d'un marché de niche à un marché de masse.
Là où il y a quelques années la poussette, on l'a donnée à quelqu'un de sa famille qui venait d'avoir un bébé, aujourd'hui la poussette, quand on n'en a plus besoin, le réflexe c'est de la remettre en vente parce qu'elle a une vraie valeur marchande.
Et ce n'est pas fini, estime Flavien Neuvy, économiste et directeur de l'observatoire CTLM.
L'économie circulaire va monter en puissance au cours des prochaines années, c'est une évidence. Première raison, c'est qu'elle coche la case environnementale, préserver les ressources, de ne pas gaspiller, de ne pas jeter, on ne reviendra pas en arrière. Le deuxième élément, c'est qu'elle coche aussi la case économique. Ça permet d'acheter des produits moins chers quand on les achète d'occasion.
Cette montée en puissance, l'enseigne EasyCash en bénéficie largement. Elle vient de franchir la barre des 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, tout le monde est attentif à son pouvoir d'achat, estime Jérôme Toflib, son président.
La motivation première pour venir vendre chez EasyCash, c'est une logique de renouvellement. On vient revendre son iPhone 11 pour acheter un 12 ou un 13. Et même raisonnement pour des consoles de jeux, par exemple. Les gens viennent revendre leur PS4 pour acheter la PS5. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on touche tout le monde.
Mais signe de la morosité ambiante, selon l'étude de l'observatoire CTLM, un tiers des personnes qui vendent leurs affaires mettent l'argent de côté pour faire face à un éventuel coup dur.
Quand le consommateur devient aussi de plus en plus vendeur, explication signée Agnès Soubiran. Après trois jours dans la tourmente, Orpea se résout à lancer une mission d'évaluation sur les accusations de maltraitance dans ses EHPAD. Elle sera menée par deux cabinets indépendants, affirme le groupe, qui promet aussi de rendre publiques les conclusions. À part Christiane Taubira, aucun des principaux candidats de gauche n'en veut, mais la primaire populaire lance malgré tout ce matin son vote de départage. Ouverture à 10h, 467 000 personnes se sont inscrites pour participer au scrutin. Un vote au jugement majoritaire. L'électeur doit donner une appréciation pour chaque candidat. Rendez-vous sur franceinter.fr pour tout comprendre du fonctionnement de cette primaire. Les interrogatoires des accusés se suivent et se ressemblent au procès du 13 novembre. Une litanie de questions sans réponse. Après Oussama Krayem, c'était au tour hier de Mohamed Bakali de faire valoir son droit au silence. L'un des logisticiens présumés des attentats dénonce un procès joué d'avance. Mais les accusés ne sont pas les seuls en ce moment à bouder les débats. Certains témoins aussi, Charlotte Piret.
Il y a déjà eu ces témoins à la mémoire particulièrement défaillante, d'autres qui n'avaient rien à dire. Mais là, ce sont quatre témoins, coup sur coup, qui ont indiqué qu'ils ne viendraient pas à la barre. Elle a fourni un certificat médical à 10 ans indisponible jusqu'au 30 juin, je crois, indique le président pour la première, jusqu'au 30 mai pour un autre, souffrant de stress permanent pour une troisième. Bref, des durées étonnamment longues, s'étonne le parquet antiterroriste qui confie une forme d'agacement. Et l'agacement vire carrément à la colère sur les bancs de la défense lorsque la suivante a décliné s'avère être magistrate professionnelle, scandaleux et méprisant pour maître Raphaël Kempf, avocat de l'un des accusés.
Le comportement de madame Sophie Grégoire, juge d'instruction à Bruxelles, est effectivement un comportement de mépris à l'égard de cette cour d'assises, mais également de la défense, des accusés, de personnes qu'elle a envoyées en prison comme Yassine Attar. C'est particulièrement honteux et scandaleux. Finalement, c'est malheureusement à l'image des enquêteurs belges qui, nous le savons et nous l'avons vu au début de ce procès, ont fait des pieds et des mains pour ne pas venir devant cette juridiction.
Lunaire, une désinvolture sidérante, entend-on encore sur les bancs de la défense, qui estime ses droits amputés. Vous savez que les moyens de coercition sur une personne se trouvant à l'étranger sont inexistants, rappelle le président. Concrètement, la juge d'instruction belge, comme les autres témoins du jour, peuvent donc faire ce qu'ils veulent.
10 jours après sa mort sur une piste de ski en Savoie, le monde du cinéma s'apprête à rendre un dernier hommage à Gaspard Ulliel. Les obsèques de l'acteur ont lieu ce matin en l'église Saint-Eustache à Paris.
Il est 7h39, une puissance équivalente, Alexis, à des centaines d'Hiroshima.
Oui, c'était il y a 12 jours dans le Pacifique, l'éruption d'un volcan aux îles Tonga et ce gigantesque nuage de cendres, grand comme la moitié de la France. Depuis, il a voyagé, ce nuage, traqué par les scientifiques du monde entier, comme lors de son passage au-dessus de l'île de la Réunion, Sophie Becherel nous raconte.
Ils ont accouru du Maryland, du Colorado et de Houston. Après 36 heures de voyage, quatre scientifiques américains ont débarqué vendredi soir à La Réunion, le temps de déballer leurs 150 kilos de matériel et à 23 heures, le premier ballon sonde était lâché. Histoire de sonder le cœur du panache, de mesurer certains composés précis.
Mesure d'ozone, d'aérosol, de vapeur d'eau et de dioxyde de soufre.
Valentin Duflot est l'un des membres de l'équipe internationale. Côté réunionnais, rompu au suivi du piton de la fournaise, les chercheurs ont pointé leur laser vers le ciel. En un temps record, il a donc été possible de récolter les premières données.
La quantité d'aérosol à la verticale de la Réunion a été multipliée par 6 lors du passage du panache, ce qui est exceptionnel. Et un des intérêts d'étudier les panaches volcaniques qui sont injectés jusque dans la stratosphère, c'est de connaître leur potentiel de destruction d'ozone. On a eu une diminution de l'ordre de 25% de la quantité d'ozone au-dessus de la Réunion. D'ailleurs, j'ai pris un coup de soleil que j'ai pas compris ce jour-là et je l'ai compris le lendemain lorsqu'on a regardé les données.
Beaucoup d'autres informations restent à éplucher qui pourront être comparées à une autre méga-éruption, celle du Pinatubo. À l'époque, le volcan philippin avait craché 5 jours et la quantité de particules envoyées dans l'atmosphère avait très légèrement assombri et refroidi la Terre pendant plusieurs mois.
Sophie Becherel, les handballeurs français, eux, n'ont pas vraiment été volcaniques hier soir. Au contraire, ils ont subi leur match à l'Euro, ce qui ne les a pas empêchés de l'emporter sur le fil 30 à 29 face aux Danois et donc de se qualifier pour les demi-finales. Ils retrouveront la Suède demain soir.
Alexis Morel, merci. L'édito politique à suivre.